enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonjour à tous. Je suis content de vous revoir ce matin. Je suis vraiment heureux de voir la présence de chacun de vous ici. Je ne sais pas si vous l'avez senti, peut-être certains l'ont senti, mais dans ce type de réunion, lorsque nous nous réunissons tous ensemble, le Seigneur est à l'œuvre. Et c'est vraiment vivant. Il est à l'œuvre au moment des chants, lorsqu'on chante. Il y a une action du Saint-Esprit à ce moment-là. Il était à l'œuvre pendant que Pat parlait. Il a évoqué certaines choses, il a été conduit dans la prière. Le Saint-Esprit est à l'œuvre à ce moment-là. Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous parler de la vie. La vie de Dieu. Vous savez ce qui différencie notre relation avec le Père de toutes les autres religions qui peuvent exister, c'est la vie. Nous sommes en relation avec un Dieu qui vit. Dans la religion, c'est mort, mais Dieu, lui, est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va essayer de méditer ensemble la parole et on va toucher du doigt à cette réalité. Avant, nous allons prier. Seigneur, je te bénis pour ce moment que tu nous donnes. Ce matin, cette réunion ne nous appartient pas. Ce matin, nous voulons que tu sois glorifié, que tu continues d'être glorifié au travers de cette rencontre. Saint-Esprit, nous voulons que tu agisses. Père, nous voulons que tu sois honoré au milieu de nous, que tu sois glorifié. Nous voulons, Seigneur, que chacun d'entre nous reconnaisse ta position de roi. Tu es le Créateur. Tu es au-dessus de toute autorité, Père. Seigneur, cette prédication, ce culte, cette réunion, elle est sous ton autorité. C'est toi qui nous parles, Seigneur. Alors nous te laissons toute la place. Par le nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais avec vous lire ce matin un passage, on va l'étudier ensemble. On va se concentrer sur le passage de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19. Un passage que nous avons tous lu maintes et maintes fois. Et ce matin, nous allons plonger nos regards. On va plonger dans la parole. On va s'intéresser un peu à ce que le Seigneur nous communique au travers de sa parole. Vous savez que la Bible a été inspirée par celui qui est vivant. Donc les paroles qui sont contenues dans ce livre sont des paroles vivantes. Ce sont des paroles agissantes. Contrairement à tout bon livre de philosophie, de psychologie, où il y a de bonnes notions peut-être dedans, mais ce ne sont que des notions intellectuelles qui peuvent nous édifier d'une certaine manière, mais là, ça n'a rien à voir. Ici, les paroles sont vivantes. Autrement dit, quand on les lit, quand on se plonge dans la parole, il y a quelque chose qui s'opère concrètement dans notre esprit. Et ça dépasse largement le domaine de l'émotion, le domaine de l'intellect, ça dépasse largement. On n'est pas du tout dans le domaine de l'âme. Bien qu'on puisse lire la Bible uniquement en fonction de l'âme, et de nombreux historiens et intellectuels l'ont lu. Mais là, il s'agit de plonger nos regards dans la parole en sachant qu'elle est vivante et en nous attendant à ce qu'elle opère quelque chose au fin fond de notre cœur. Alors on va lire à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comme le temps est limité, on va malheureusement sauter quelques passages et on va jusqu'au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus longue, n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vêtera-t-il pas à plus forte raison ? Ne vous vêtrait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et là, on arrive au verset, un merveilleux verset, le verset central. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Quand on regarde de plus près les mots de ce verset, il est intéressant, et je vous le conseille d'ailleurs, quand vous avez une étude à faire ou quand vous vous posez une question par rapport à un verset, d'aller essayer de regarder aux sources. Donc le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc les mots initiaux étaient des mots grecs. Ils ont été traduits pour constituer toutes sortes de versions en langue française et dans d'autres langues. Mais il faut savoir que les langues n'ont pas toutes la même, la même richesse en termes de lexique, en termes de mots. Il est vraiment intéressant, pour pouvoir vraiment comprendre ce que la parole veut dire, d'essayer de revenir un petit peu à la source. Et voir un petit peu, pour chaque mot qui sont utilisés, quelles sont les différentes nuances. Parce que toutes ces nuances-là ne sont pas forcément retranscrites dans la traduction que vous avez sous les yeux. Donc pour cela, il y a des outils qui existent, vous en connaissez certainement plus que moi. Moi je recommande, juste à titre pratique, des sites comme par exemple le blog de David Oustin, qui a mis des outils à disposition, et on peut avoir les numéros strong, c'est-à-dire tous les mots grecs qui ont été numérotés avec leur signification. Donc quand vous avez un mot et que vous le lisez avec la version Louis II plus les codes strong, eh bien ça vous renvoie à des mots et une explication du mot et une petite liste de toutes les nuances de ce mot. Et alors voilà ce que ça donne pour le verset « Cherchez d'abord » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, au niveau de la signification de ce mot, comporte les nuances suivantes. Autorité qui gouverne un royaume, ou alors le territoire soumis à l'autorité d'un roi. Voilà ce que c'est que le royaume. Et aujourd'hui, on va parler en termes d'espace, en termes de territoire. Vous allez essayer, nous allons essayer de comprendre ce verset avec une représentation visuelle, une représentation spatiale. Et je vais m'expliquer. Retenez simplement que cette notion de royaume, Jésus nous demande de chercher premièrement, c'est-à-dire avant toute chose, le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est un territoire où s'exerce l'autorité du roi. Jésus nous demande de chercher premièrement ce territoire-là. Deuxièmement, chercher premièrement le royaume et la justice. Donc, même chose, on va regarder ce que signifie le mot justice. Quelles sont les nuances qui se trouvent dans ce mot ? Il y a condition acceptable par Dieu. Voilà l'état de justice. Condition acceptable par Dieu. État approuvé par Dieu. Intégrité, vertu, pureté de vie, droiture et enfin pensée et action correcte. Voilà ce que Jésus désire que nous cherchions avant toute chose. Un territoire où son autorité est reconnue et la justice. C'est-à-dire un état où je suis pleinement approuvé par mon Père. Où je reçois sa totale approbation. Ça, c'est le territoire que nous devons chercher avant toute chose. Ça veut dire à chaque instant de notre vie. Pas simplement à des moments particuliers, aux moments forts, quand on se réunit, les moments forts de l'Église dans l'année. Non, c'est quelque chose que l'on doit mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Ce qui différencie la rencontre avec Dieu d'une simple religion, c'est qu'il ne s'agit pas d'une pratique. On parle souvent d'être croyant et, pour certains, d'être en plus pratiquant. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une rencontre. Quand on rencontre sa femme ou son mari, c'est une rencontre qui va avoir un impact sur tout le restant de notre vie. C'est quotidien. La vie est une vie de relation quotidienne avec cette personne. Il en est de même quand on rencontre celui qui est vivant. Ça ne peut exister que si l'on rencontre quelqu'un de vivant. Si cette rencontre n'est autre qu'une relation ou toute une vie construite autour de quelque chose de mort, alors là oui, effectivement, ben, ça ne sera vivant que dans la mesure où nous, on lui donne la vie, comme une marionnette. Quand je mets mon doigt, ma main dans leur marionnette, je peux l'animer. La faire bouger, lui donner un semblant de vie, mais dès que je la pose et que j'enlève ma main, la marionnette reste morte parce que c'est un objet, c'est inerte. Il n'y a pas de vie dans la marionnette. Il n'y a pas de vie dans la religion non plus. La religiosité, c'est mort. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Nous avons un Dieu qui est vivant. Quel est le Dieu qui peut dire « Je suis » ? Quel autre Dieu peut dire « Je suis celui qui suis » ? C'est le verset qu'on trouve dans Deutéronome. Exode. Pourquoi Deutéronome ? Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle « Je suis ». Aucun Dieu ne peut s'appeler « Je suis ». Aucun Dieu ne peut dire « Je suis » s'il est mort. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un Dieu qui vit. Si nous sommes réunis ici, il y a deux raisons possibles. Soit nous sommes dans une attitude religieuse, et donc nous nous rassemblons le dimanche dans l'inertie de la tradition. Et effectivement, un culte est constitué de plusieurs moments. Le temps de louange, le temps des offrandes, le temps d'annonce, le temps de prédication. Et puis, ça continue. Il y a beaucoup de gens, des milliers de gens qui sont investis dans ce genre de vie. Ou alors, nous sommes ici réunis parce qu'à un moment donné dans notre vie, on a eu un contact. Un contact avec quelqu'un de vivant, quelqu'un qui a transformé notre vie, quelqu'un avec qui nous sommes entrés en relation. Et aujourd'hui, nous allons parler de cela. Revenons un petit peu au verset qu'on a pris tout à l'heure, dans Matthieu. Par rapport à la notion de territoire, vous savez que le champ de bataille de l'ennemi est celui des pensées. C'est quelque chose que vous savez. Et c'est pour ça que je voudrais raisonner en termes de territoire. Dans la vie de tous les jours, quel est mon degré de soumission au Seigneur? Quel est mon degré de, je dirais, de conscience de sa présence? Quelle est la place que je lui accorde dans ma vie de tous les jours? Je ne vous parle pas des moments où on se réunit, parce que là, en général, on est aidé pour être concentré sur Jésus, on chante. Moi, je vous parle de la vie de tous les jours, tout au long de votre vie. C'est-à-dire le plus clair de votre temps. Quand on se lève le matin, que l'on va au travail, la vie familiale, les vacances, les temps de loisirs, les temps de repos, quelle est la place qu'on accorde au Seigneur à ces moments-là? Le champ de bataille de l'ennemi sont les pensées. Vous savez que Satan a été vaincu. Il a été vaincu sur la croix depuis que Jésus est venu et qu'il a manifesté cette victoire définitive. Ceci dit, Satan, bien que ne pouvant pas détruire l'œuvre de Jésus, peut très bien venir dans le champ des pensées pour nous empêcher de recevoir, de bénéficier de tout ce que le Seigneur veut nous apporter, de tout ce que le salut peut nous apporter. Et cette bataille se passe dans le champ des pensées, dans le domaine des pensées. Et je pense que quand Jésus nous invite à rechercher premièrement le territoire où s'exerce l'autorité du roi, on peut considérer le champ des pensées comme un ensemble de territoires différents. Et nous avons un libre arbitre. Je peux me promener où je veux. Je peux aller dans le territoire que je veux dans le domaine des pensées. Je l'oriente comme je veux, parce que je suis libre de choisir le territoire dans lequel je vais vivre. Jésus nous demande le territoire. Cherche premièrement le territoire où s'exerce mon autorité. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pourtant, le Seigneur connaît les besoins. Nous sommes des êtres humains, nous avons des besoins, et là, il est question de manger, de boire et de se vêtir. Quand on réfléchit un petit peu à ces trois exemples, on peut dire que là, le Seigneur couvre la quasi-totalité des besoins primaires de l'être humain. Bien sûr, manger, on sait bien que si on ne mange pas, on ne reçoit pas on ne peut pas vivre. Pareil pour la boisson, on ne peut pas vivre sans eau. Manger, c'est aussi la notion de plaisir. C'est aussi ce qui nous apporte l'énergie. Tout ça, ce sont des besoins primaires, des besoins de base. Profiter de la vie, être en bonne santé, avoir l'énergie nécessaire pour faire les choses. Et pareil pour le vêtement. Quand je suis habillé, ce n'est pas uniquement pour me protéger du froid, il y a aussi la dimension sociale du vêtement. On ne s'habille pas n'importe comment, n'importe où. Or, les relations sociales sont primordiales pour nous. Un des besoins primaires de l'être humain, c'est celui d'être aimé, d'être reconnu. Le Seigneur a balayé l'ensemble des besoins primaires. Et ces besoins-là ne sont pas des caprices. On a été fabriqués comme ça. Nous avons besoin de ça. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'énergie, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être aimé. Et le Seigneur nous dit que ces choses-là ne doivent pas faire l'objet de nos pensées. Et pourtant, elles sont légitimes. Ça ne doit pas être ce qu'on cherche en premier. Pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à vouloir chercher ces choses? Pourquoi est-ce que ces choses-là, qui sont légitimes, qui ne sont pas mauvaises, qui sont des besoins réels que nous avons, ont tendance à prendre le pas sur le royaume de Dieu? Pourquoi? Vous êtes posé la question? On sait tous que Dieu est capable de pourvoir nos besoins. On le sait. On l'a même sans doute expérimenté plus d'une fois. Et pourtant, cette tendance-là demeure. Elle est en fait liée à ce désir de maîtriser la situation. Vous savez, c'est difficile de rester dans une attitude d'abandon auprès de Dieu. Un enfant est capable de le faire. Je comprends pourquoi le Seigneur nous invite à redevenir comme des enfants. Il évoque certainement cette qualité première de l'enfant, celle de savoir s'abandonner. Un enfant qui naît dans de très mauvaises conditions. Je pense aux enfants qui très tôt sont abandonnés et vivent la dureté de la rue et qui se battent pour pouvoir manger et pour justement leurs besoins primaires. Imaginez une fois que cet enfant-là est recueilli dans une famille qu'il aime et qui pourvoit à tous ses besoins. Cet enfant va s'abandonner complètement. Il aura connu la galère terrible pour un enfant, parfois à un très très jeune âge dans certains pays ou dans certains quartiers. Et là, il va vivre cet abandon complet. Il va plus se poser la question de savoir s'il va pouvoir manger parce qu'il sait que son papa et sa maman prennent soin de lui. Et nous, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, on a appris à quitter l'enfance, donc à devenir responsable, et on a besoin de maîtriser notre vie. Et on a tout un système de pensée, toute une représentation du monde dans lequel on vit, qui fait qu'on a besoin de sentir que l'on maîtrise. Mais si, véritablement, nous faisons cette rencontre avec Dieu, si véritablement nous prenons conscience de qui il est, si nous le laissons se révéler complètement à nous, en profondeur, alors on pourra vivre naturellement dans cet état d'abandon. Je ne parle pas de se déresponsabiliser par rapport à nos devoirs et à nos tâches. Je parle de vivre dans le repos. Aujourd'hui, je désire que nous soyons, que nous prenions le temps de nous analyser nous-mêmes et voir un peu où est-ce que nous en sommes par rapport à cette notion de priorité. Est-ce que le royaume de Dieu est ce que je cherche premièrement? Je ne peux pas chercher premièrement le royaume de Dieu si je n'ai pas compris ces choses-là, si ces choses-là n'ont pas été révélées. Si je ne suis l'Église et le Seigneur que par procuration, sans avoir une intimité avec lui, si je ne le suis que parce que j'ai été éduqué comme ça ou parce qu'un beau jour ma vie a pris cette tournure et puis ça correspond à plus ou moins, ça résonne par rapport à mes convictions, si je ne le suis que comme un système de pensée, comme une philosophie, je ne vais pas du tout accéder à tout ce qu'il y a, à toute la vie qu'il y a derrière. Donc il n'y a aucune raison pour que je change ma mentalité. Je vais rester quelqu'un qui va toujours chercher à maîtriser la situation. Je ne vais pas m'abandonner au Seigneur. Et je ne vais jamais le mettre à la première place. Il y aura toujours quelque chose de légitime, de bon, de vrai, que je mettrai avant lui. Et ça va nous conduire à un autre verset. Le verset de celui qui a réalisé la valeur du trésor. Celui qui a tout vendu pour acheter le champ dans lequel était le trésor. On va regarder ce verset qui se trouve dans Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Mettons-nous un petit peu à la place de cet homme. Il a trouvé le trésor. Autrement dit, quelque chose qui a une valeur mais inestimable, au-delà de tout ce qui peut exister sur terre. Il l'a trouvé, il sait que ce trésor est dans ce champ, et il sait que pour pouvoir se l'approprier, mais il faut qu'il achète le champ. Question, quelle est la valeur qu'il accorde à ce champ? En fait, cet homme va vendre tout ce qu'il a. Parmi ses possessions, il y a des choses auxquelles il tient. Mais s'il compare tout ce qu'il a à la valeur inestimable de ce trésor, mais il ne fait même pas un effort pour renoncer. Au moment où il vend, il se débarrasse de ce qu'il a, mais ce n'est pas un effort pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a compris, il a eu la révélation. Il sait que dans ce champ, il y a un trésor d'une valeur inestimable. Et il ne fait pas un effort. Il ne fait aucun effort. Il ne fait pas d'effort de renoncement. Il court, il vend tout ce qu'il a. S'il n'y a pas cette révélation et que l'on essaie de se plier à une attitude qui consiste à se dépouiller soi-même pour faire grandir Dieu en nous, mais qu'on n'a pas compris ce qu'il y a derrière. Ça va être difficile de renoncer. Il y a des choses pour lesquelles on va avoir du mal à renoncer. Vous imaginez cet homme en train de vendre ses affaires ? Au moment où il vendait sa petite collection de porcelaine, vous l'imaginez dire « Ah, oh quel dommage, non, j'aimerais bien la garder celle-là. » Non, pour lui, aucune importance. Vas-y, prends-la cette collection, ça n'a plus aucune importance pour moi. Et nous, au contraire, il y a des moments où on s'attache à des choses. Il y a des petites choses qui sont trop dures. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement des liens dans le passé qui expliquent qu'on soit attaché à tel ou tel mode de fonctionnement, telle ou telle possession. Et on ne va pas réussir à le lâcher pour le Seigneur. Parce que on l'a beaucoup trop à cœur. Si aujourd'hui j'en suis là, alors ça veut dire que j'ai besoin de révélation. Et je pense que, quand j'analyse ma propre vie en tout cas, on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans la révélation, dans la connaissance de Dieu. S'il y a des domaines dans ta vie qui représentent un effort, s'il y a des domaines dans ta vie, des domaines pour lesquels tu n'es pas prêt à renoncer, alors ça veut dire que tu dois aller plus loin. Tu n'as pas entièrement compris qui est Dieu. Tu ne l'as pas entièrement découvert. Et j'ai presque envie de dire, mais à la limite, arrête. Arrête d'essayer de renoncer. N'essaie pas de renoncer. Parce que la véritable vie, c'est celle qui coule. Cet homme ne faisait pas d'effort pour renoncer. Il n'était pas en train d'essayer de faire un effort pour se placer à un certain standing, à un certain niveau spirituel. Faire un effort pour lire la Bible, faire un effort pour ne pas faire telle ou telle chose, faire un effort. Bien sûr, il y a cette notion de travail et la Bible en parle. Il ne s'agit pas de couler et puis de se laisser aller à vivre en fonction de nos impulsions charnelles. Mais s'il y a des domaines qui demandent un effort, c'est qu'il y a besoin d'une révélation plus profonde de Dieu, tout simplement. Dieu est vivant. Dieu est vivant. On peut avoir une relation intime avec lui. Et quand cette relation intime est là, il y a son onction. On parle de flots d'eau vive qui jaillissent. Vous savez ce que c'est que des flots d'eau vive qui jaillissent ? Vous avez déjà essayé en montagne de traverser un torrent ? Quand ce courant est très très fort, là on mesure la puissance de l'eau, la puissance des flots qui jaillissent. C'est ça que nous sommes appelés à vivre. Quand on pense à des personnes comme Smith Wigglesworth, qui se retrouvaient parfois, même d'autres personnes, qui se retrouvaient parfois dans des endroits et sans même ouvrir la bouche, le fait même qu'ils entrent, qu'ils s'assoient dans le compartiment d'un train, je crois, et des personnes tombaient sous la conviction de péché, ils n'avaient même pas ouvert la bouche. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais ça, pour moi, ce sont des flots d'eau vive qui jaillissent. Il n'y avait pas la mise en pratique d'une technique particulière. Il rentre et il s'assoit. Mais il est tellement rempli de la puissance de Dieu, tellement rempli de la présence de Dieu, qu'il y a ces flots qui jaillissent. C'est l'œuvre de Dieu qui se fait toute seule. Nous sommes une église qui croit aux manifestations de l'esprit. Nous croyons à la guérison, nous croyons à la délivrance, nous croyons à toutes sortes d'œuvres miraculeuses. Nous y croyons parce que c'est biblique. Mais est-ce que vraiment nous avons envie de le vivre ? J'ai remarqué plusieurs fois dans ma propre vie cette tentative de vivre ces choses-là et de ne pas les voir. Des moments de prière. Alors je ne suis pas là pour décourager qui que ce soit, parce que la guérison n'a pas eu lieu partout où Jésus est allé, et que ce n'est pas uniquement pour des raisons de manquement personnel. Il y a toutes sortes de paramètres qui entrent en jeu pour la mise en pour la manifestation de certaines œuvres de Dieu. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais par rapport à cet aspect surnaturel, je pense qu'il y a des moments où on a une connaissance qui est intellectuelle, et c'est déjà une bonne chose, on l'a accepté, le concept, c'est un bon premier pas. Mais ce qui nous manque, c'est cette puissance intérieure. Alors on la recherche parfois sous forme d'onction chez un homme ou une femme de Dieu, un grand ministère. Alors dès que la personne se déplace, on va tous y aller, parce qu'on va se dire, il va se passer quelque chose. Et c'est sans doute vrai, mais je pense que l'objectif de Dieu va bien au-delà de ça. Dieu ne va pas distribuer son onction de façon conditionnelle ou partielle à un tel. Marc 16, c'est un appel et un appel pour tous les croyants. Pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? Je pense qu'au lieu de se fatiguer à essayer de prier, à se forcer, parfois on a l'impression de forcer pour que les guérisons se manifestent, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, et on le voit dans certaines prières où on a l'impression que c'est nous qui faisons le travail. Mais repensons un petit peu à la manière dont Dieu agit. Smith Wigglesworth s'asseyait et les gens, certaines fois, tombaient sous la conviction de péché alors qu'il n'avait même pas ouvert la bouche. C'est un peu comme si quand le chrétien rempli de l'esprit, rempli de la présence de Dieu, dans une intimité immense avec Dieu, devenait quelqu'un qui, dès qu'on s'approche de lui, on devrait entendre un résonnement interne. Et rien que le fait de s'approcher, les flots d'eau vive qui jaillissent. Là, on n'est pas dans l'état où on essaye de faire des choses pour le Seigneur. On est dans l'état où le Seigneur meurt d'envie de manifester sa puissance. Il a envie de le faire. Il ne le fait pas de manière limitée. On a un petit peu l'impression parfois que c'est le Dieu homéopathique avec une petite gouttelette par-ci, par-là, sur la terre. C'est pas ça. Dieu, c'est le Dieu de la surabondance. Quand on lui demande quelque chose, mais il le veut. Là, par rapport à ses besoins, les besoins dont il était question, le verset dans Matthieu 6, « Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu sait que vous en avez besoin. Le Seigneur connaît nos besoins. » C'est au verset 32. « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Et juste avant, dans le même verset, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Ce sont les païens qui les recherchent. Pourtant, ce sont de bonnes choses. Pourquoi ce sont les païens qui les recherchent? Parce que si toi, tu as connu ton Père Céleste, tu n'es plus en train de les rechercher. Ton Père sait que tu en as besoin. Quand j'étais enfant, je savais que mes parents étaient au courant de mes besoins physiologiques. Je ne m'inquiétais pas de savoir si oui ou non j'allais avoir de quoi manger le soir. Je le savais. Et du coup, on vit dans le repos. Je désire vraiment vous communiquer ce que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur pendant cette semaine, cette notion d'intimité avec le Père. Je pense que on dépense et on peut dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de vivre selon un certain standard, mais par nos propres moyens, par nos propres forces. Tout ça faute de l'essentiel, faute d'une intimité avec le Seigneur. Je pense qu'il est important régulièrement de nous évaluer, de nous réévaluer et voir un peu où est-ce qu'on en est par rapport au Seigneur. Vous savez qu'il est possible d'être investi dans l'Église et peut-être même avoir certaines responsabilités dans l'Église pour des motivations qui ne sont pas bonnes. Et c'est possible. Je dirais même que d'un point de vue purement social, c'est parfaitement propre à l'être humain. On entre dans un groupe, une sorte de communauté, et dans ce groupe, eh bien, nous avons une position, nous avons un statut. Nous sommes reconnus par rapport à ce que l'on fait. C'est très gratifiant, vous savez, d'un point de vue purement naturel, purement humain. On a une existence. Et plus on s'investit, plus on est reconnu pour telle ou telle position, et plus c'est gratifiant. Et ça peut très bien s'auto-alimenter, et on peut vivre comme ça 10, 15, 20 ans, sans prendre garde à notre intimité avec le Seigneur. On peut le faire dans l'Église, mais alors pourquoi ne pas le faire dans une association à but humanitaire? La dynamique est exactement la même, le processus est exactement le même. On peut très bien, dans l'Église, avoir une position ou se sentir reconnu, et quelque part, ça suffit. Ça peut parfois être une des principales motivations. Je crois qu'il est important, et le Seigneur nous avertit de ça. Quand le Seigneur parle de cette rencontre avec des personnes qui font étalage de tout ce qu'ils ont fait, des choses assez incroyables, et il leur répond « Arrière de moi, je ne vous connais pas », il s'agit bien d'avoir perdu l'essentiel, d'avoir manqué le but. Moi, je dirais presque, parfois, le fait de s'investir par ses propres forces dans des œuvres qui ne marchent pas, quelque part, c'est une bénédiction quand ça ne marche pas. Parce que du coup, on se dit, tiens, il manque l'énergie, il y a un problème de carburant. Et du coup, ça peut peut-être nous ramener à la source. Mais imaginez-vous, si vous avez des dons naturels, un certain charisme, une certaine ingéniosité, un certain savoir-faire qui fait que votre œuvre sans Dieu fonctionne. Vous pouvez gaspiller des décennies tout en croyant que vous avez une certaine position par rapport à Dieu, alors que vous ne l'avez pas. Moi, je pense vraiment qu'il est important de réévaluer notre position, de réévaluer quelle est mon intimité avec le Seigneur, quelle est mon intimité avec le Père. Et puis, considérer les témoignages comme Wigglesworth, non pas comme des cas exceptionnels, parce que bon, y en a un de temps en temps là qui sort du lot. Mais pourquoi est-ce que je ne le vis pas personnellement? Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Je sais bien que non. Alors pourquoi? Ah oui, peut-être lui il était à plein temps, et puis moi je bosse, donc j'ai un petit peu moins de temps à consacrer au Seigneur, donc forcément c'est proportionnel. On sait bien que c'est pas vrai. Au contraire, là où nous travaillons, nous sommes une lumière. Le chant le disait. Être une lumière. Vous imaginez? Entrer dans la salle de staff. Entrez dans la salle de détente, entrez là où vous êtes, là où vous travaillez, dans le bureau, dans l'équipe. Et puis quand vous entrez dans la pièce, spirituellement, ça fait... Il y a une vie à l'intérieur. Comme quand on s'approche d'une centrale électrique, sans même y pénétrer, hein, on entend là, ça s'entend. L'activité électrique, une puissance, une énergie qui va être distribuée, les flots d'eau vive qui jaillissent. Voilà notre appel. Et à partir de là, quelle que soit notre position, quel que soit notre statut, on n'a pas besoin de ça. Je peux très bien venir et passer toute ma vie à laver les toilettes en silence de l'église, sans que personne ne me voie. Et quand je rentre dans l'église et qu'il y a toute cette assemblée d'anges, ils se tournent quand un tel homme ou une telle femme de Dieu pénètre dans l'église. D'un point de vue naturel, quand cette personne rentre, elle est peut-être insignifiante, elle passe peut-être, et c'est souvent le cas, complètement inaperçue. Pas fait beaucoup d'études, n'a pas un niveau social très très élevé, vit de façon très modeste, apparence sans plus, sa petite vie. Ça rentre dans l'église, ça sort, on s'en aperçoit même pas. Par contre, dès que c'est un grand orateur, quelqu'un de connu avec un grand ministère, il n'y a rien... J'ai rien contre ça, bien entendu. Et là, tout de suite, on va essayer de dire bonjour. Peut-être, il a écrit un livre. J'ai touché l'épaule. Waouh! Mais d'un point de vue spirituel, moi j'imagine l'église et puis tout autour des gradins qu'on ne voit pas. Et là, il y a tous les anges et Dieu qui sont assis, qui regardent. C'est ce qu'ils font. Ils nous regardent agir. Et quand cet homme de Dieu rentre, imaginons qu'il n'ait pas cette intimité. Qu'il ait un ministère prospère, mais imaginons le cas de quelqu'un qui n'est pas cette intimité avec le Seigneur. Ah, il ne va pas passer inaperçu quand il va entrer dans l'église, mais si, il va peut-être passer inaperçu aux yeux de Dieu. Par contre, quand il y a ce petit monsieur-là, ce petit papy insignifiant qui entre dans l'église, personne ne s'en aperçoit, là il y a les anges qui se lèvent et qui l'acclament. Hé, il est là ! Et le Seigneur, oh, il est interpellé, il le regarde. Voilà la réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle, un beau jour, se manifestera. Ah, si on pouvait, dès maintenant, penser à ces choses-là, se dire, bon Seigneur, moi je veux te servir, mais je le fais parce que je t'aime. On ne peut pas faire ça si on ne le connaît pas. Si je suis juste concentré sur mes propres objectifs, ma propre ambition, ma propre prospérité, si je suis concentré sur mes besoins primaires, qui sont légitimes, mais alors que je ne mets pas en premier le royaume de Dieu, ça ne sert à rien. ma vie est un gaspillage. Le Seigneur va m'aimer, le Seigneur nous aime, son amour est inconditionnel, mais sa gloire ne peut pas se manifester. Même si je prie comme ça, il ne va rien se passer. Ça nous arrive parfois de prier comme ça, comme si on allait pondre le miracle. C'est le Seigneur qui agit. L'intimité avec le Père. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui, on va bientôt s'arrêter. Je voudrais juste finir par un dernier petit message. Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Ce message-là, il est inacceptable d'un point de vue intellectuel. Là, on comprend comment la sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu sont complètement incompatibles. Aujourd'hui, il est scandaleux dans les groupes bien pensants d'intellectuels de soutenir ce concept. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Parce que les intellectuels vont rétorquer, mais hey, c'est très bien, c'est ta conviction, apparemment ça a l'air de bien marcher pour ta vie, tant mieux, tu as trouvé ton équilibre là, c'est super. Mais sois un peu plus modéré. Et sous l'étendard de la modération, de la flexibilité, de la souplesse, de l'ouverture d'esprit, du respect des idées différentes, il est impossible d'accepter cela. Moi, je répondrai en toute humilité et en toute simplicité. Je ne vais pas essayer de combattre dans le champ intellectuel. La seule chose, c'est une question de vie ou de mort. Jésus est vivant, vos autres dieux sont morts. Les pensées, les mouvements, les philosophies, bien que parfois très jolies, très belles, assez ressemblantes à l'Évangile, quand elles sont dénuées de la présence de Jésus, quand elles ne sont pas enracinées sur ce fondement-là, elles sont mortes et elles n'apportent rien. Et je ne peux que le témoigner. Et c'est en puissance que les personnes sont touchées. Vous savez, si moi j'ai donné ma vie au Seigneur, ce n'est pas juste parce que, et c'est très bien, parce qu'on m'a prêché l'Évangile. Et je remercie le Seigneur que l'on m'ait prêché l'Évangile. Je remercie le Seigneur d'être né dans une famille où mes parents m'ont enseigné l'Évangile. Mais si aujourd'hui j'appartiens au Seigneur, c'est parce qu'un jour, j'ai eu envie de cette vie-là. J'ai vu qu'il y avait de la vie derrière. Ce n'était pas que des concepts, ce n'était pas qu'une éducation, ce n'était pas que des valeurs qu'on m'avait transmises. À un moment donné, j'ai eu soif de cette vie, je l'ai vue, cette vie, au travers de certaines personnes. Et là, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort à dire « Oh, c'est vrai, il faudrait que je me convertisse, il faudrait que je mette en règle ma vie par rapport au Seigneur. » Il n'y a pas d'effort à faire. J'ai couru, j'avais envie. J'avais quitté la religion pour entrer dans la relation. Si cette vie-là n'est pas palpable, si ça ne résonne pas, ce n'est pas la peine qu'on se fatigue à faire de l'évangélisation. Ça relèvera du prosélytisme pour faire entrer des gens dans des petites boîtes, pour les faire adhérer à un mouvement. On n'en a rien à faire de tout ça. Ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas l'appel que Dieu nous a donné. L'appel que Dieu nous a donné, c'est recevoir la vie et la communiquer. Et on devient des vases communicants. Parce qu'on a reçu quelque chose qui bouillonne en nous. On n'a pas d'effort à faire, simplement une attitude. Le problème, c'est que le Seigneur nous a fait cadeau du libre arbitre. Et de ce libre arbitre, on peut faire tout et n'importe quoi. Et je pense que nos besoins légitimes, notre vie peut très facilement nous conduire à poursuivre des objectifs qui remplacent la priorité absolue. Et à partir de là, c'est n'importe quoi. Même si on continue à aller à l'église, même si on continue à rester fidèle dans l'œuvre que l'on fait, si on a perdu ce contact, ça devient mort. Ça devient complètement mort. le chrétien peut trouver une certaine gratification à vivre sa vie chrétienne. Mais soyons vigilants de cette possibilité de perte, de rupture du contact avec notre Père Céleste. Si tel est le cas, il vaut mieux remettre les pendules à zéro et revenir en disant avec simplicité, Seigneur, où est-ce qu'elle en est ma relation avec toi ? Je réalise qu'il y a beaucoup de choses que je fais, mais qui relèvent presque de l'agitation, tout comme Marthe et Marie. Marie avait choisi la bonne part, et Marthe s'inquiétait, s'agitait. Et Jésus le lui montre, le lui reproche. Marthe, tu t'inquiètes. Le repos de Dieu, le contact. Il y a une profonde bénédiction. Vous savez, quand on mène une vie pour le Seigneur, on peut vraiment être dans une relation intime avec lui, une relation intègre, une profonde intimité. Et là, il y a toute la différence. On ne va plus agir d'une certaine manière que lorsque nous sommes regardés, que lorsque nous sommes vus. Parce que si tel est le cas, que se passe-t-il quand on n'est plus vu, quand on est libre de faire ce qu'on veut, à l'abri des regards? Qu'est-ce qu'on fait face au péché? Qu'est-ce qu'on fait dans le monde des pensées? Il n'y a personne qui peut vous voir dans le monde des pensées. Qu'est-ce que l'on fait? Et c'est là que l'on peut éprouver notre relation avec Dieu. C'est là que l'on peut évaluer où nous en sommes. Et je pense que si nous ne faisons pas cette évaluation, si nous n'avons pas cette honnêteté de faire cette évaluation régulièrement, on risque de se faire avoir. Parce que l'ennemi, il ne s'agit pas d'en avoir peur, mais l'ennemi est malin. Et dans le monde des pensées, il est capable de faire beaucoup de choses. Et si on perd notre vigilance, qu'on sort du territoire où l'autorité du roi est instaurée, il peut arriver n'importe quoi. Et on peut effectivement vivre une vie apparemment prospère, mais ça n'aura rien à voir avec cette vie où il y a c'est la puissance de Dieu. C'est elle qui fait la différence. C'est elle qui fait que les gens vont tomber. C'est elle qui fait que les gens vont être touchés. C'est elle qui vous fait prospérer. Moi, je vous parle d'une prospérité, mais au-delà de toute mesure. Je ne vous parle pas de toutes les gratifications que ce monde peut nous apporter. Moi, je vous parle de la vie de Dieu, mais avec un V majuscule, qui va se manifester par, je ne sais pas comment vous le dire, mais il va y avoir de la créativité, il va y avoir un renouveau, il va y avoir de la joie, une fraîcheur, une compréhension, un discernement de choses qui sont impalpables dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. Je vous parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec le petit monde naturel que nous tentons de maîtriser. Et souvent, les personnes qui ont du mal à s'approcher de Dieu, même si elles disent d'elles-mêmes qu'elles aspirent à la vérité, ce n'est pas vrai. Ces personnes-là n'aspirent pas à toute la vérité. Ils aspirent peut-être à une partie de la vérité, mais pas au point de renoncer avec leur conception déjà préétablie. Pourquoi ? Parce que si on ouvre la porte à celui qui est vivant et qui nous dépasse de manière démesurée, on va être vraiment déstabilisé. On perd toute la maîtrise. On ne maîtrise plus rien. Et je pense que nous ne sommes pas tous prêts à accepter de perdre cette maîtrise. Alors on se targue de vouloir la vérité, de la rechercher. Mais la question que l'on peut se poser, c'est jusqu'à quel point je m'accorde ce droit à accéder à la vérité ? Soit je reste dans le domaine de ce que je maîtrise, dans le domaine des pensées. Dans ce cas-là, oui, le christianisme, et pourquoi pas autre chose. ou un mouvement philosophique. Soit j'accepte vraiment d'aller jusqu'au bout, jusqu'au point de rencontre. Et je peux vous assurer, ça c'est mon témoignage, le jour où vous avez ce point de rencontre avec le Seigneur, là vous allez toucher à du vivant. Et l'impact sera décisif dans votre vie. Voilà la différence. Voilà ce que c'est. Une évangélisation, c'est un témoignage de vie. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance, c'est le Saint-Esprit qui génère. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette manifestation de ta gloire. Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans la maîtrise de notre vie. Je désire, Seigneur, de tout mon cœur, voir mon intimité avec toi grandir, s'approfondir. Je désire, Seigneur, voir ton œuvre se manifester avec puissance, afin que cette vie qui foisonne, cette vie qui est tellement grande, tellement belle, tellement merveilleuse qu'on ne peut même pas la décrire, cette vie que tu mets à notre disposition, non seulement tu nous la donnes, mais tu veux qu'on la distribue. Seigneur, c'est ça que nous voulons vivre. Nous ne voulons pas nous enfermer dans des petites boîtes, dans nos modes de pensée. Nous voulons, Seigneur, t'autoriser à te révéler plus profondément. Et nous savons, Seigneur, que tu nous aimes. Et pour ça, tu ne te caches pas. Ça ne va pas être le fruit d'un long et périlleux voyage. Il s'agit d'un état, un état d'esprit. Et cet état d'esprit, Seigneur, je décide de l'avoir. Je décide de le maintenir toute ma vie durant. Afin qu'au travers de ma vie, tu puisses trouver une occasion parfaite de manifester ta gloire et de toucher puissamment ceux qui sont autour. Père, nous nous mettons à tes pieds ce matin et nous exprimons de tout cœur que tel est notre désir, que tu sois glorifié, Seigneur, afin que ta gloire se manifeste parmi nous. Seigneur, nous ne cherchons pas tes signes, nous ne cherchons pas tes prodiges, parce que ces choses-là ne sont que la conséquence d'une recherche réelle de toi en tant que Père, en tant que Créateur. Jésus, nous t'honorons ce matin. Et je prie pour que ton œuvre, Saint-Esprit, en ce moment, soit profonde, soit percutante au fond des cœurs. Seigneur, je prie pour que les masques de notre apparence vis-à-vis des autres tombent. Que nous n'agissions plus en fonction de ça, parce que ça va un jour disparaître. Je prie, Seigneur, pour que tu nous donnes le courage d'aller jusqu'à toucher la vérité, quelles que soient les conséquences que ça aura pour notre vie. Saint-Esprit, je te remercie pour cette œuvre que tu accomplis dans notre Église. Je te remercie, Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu accomplis dans les cœurs en ce moment. Sois glorifié, Seigneur. À toi toute la gloire. À toi toute la place. À toi la première place, Seigneur.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.